fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août, dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin, un sourd proche dans la brise? Oh, ne m'éveillez pas trop tôt, rien qu'un instant de bel contour. Le désespoir démobilise, le désespoir démobilise. Il me fait un instant sembler entendre au milieu des blés confusément le bruit des armes. Ni le yé, ni le romarin n'ont gardé le parfum des larmes. J'ai perdu, je ne sais comment, le noir secret de mon tourment. À son tour, l'ombre s'y demande. Ouais. Je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Bonjour les amis. C'est reparti pour une heure ensemble, si vous le voulez bien. Salut à Scarlett et à Corinne, à Delphine aussi, puisque j'ai appris qu'elle écoutait. Merci Fabien d'être là, parce que si tu n'étais pas là, je serais incapable de faire l'émission et de la tenir une heure entière. Alors c'est parti pour l'édito. L'été s'est pris les pieds dans nos grands arbres s'assoiffés et les fenêtres de nos maisons étaient encore fermées sous la chaleur hier. Elles sont aujourd'hui grandes ouvertes. Peut-être qu'il va pleuvoir, mais tant mieux. Hein. Il fait très doux. Il fut un temps où on parlait d'été indien. On pourra dire qu'on en a profité cette année. Mais que dire aussi, le soleil, la lune, le vent, la pluie tiennent la route, mais ne savent plus très bien où ils habitent non plus. Les hommes font trop de conneries, ça creuse, ça souffle, pollue, ça chauffe, ça jette n'importe quoi, n'importe où. Ça joue, ça vole, ça pollue, ça fume, ça élève et ça tue, ça mange trop, travaille trop. Où allons-nous ainsi, sinon dans le mur ? Enfin, dans les murs qu'on fait construire sans cesse en plus. Voilà, la planète a chaud aux fesses et les guerres se réveillent. Alors je pense à Israël, comment un peuple que les Palestiniens ont accueilli, en parlant des Israéliens, un peu contraints mais quand même, qui partageaient les lieux saints, chacun le sien, sont arrivés à se massacrer d'une telle façon. Ça fait des années que les Juifs qui ont été accueillis et autorisés par je ne sais quel traité international à cohabiter avec les Palestiniens et à partager leurs lieux saints, mais pas de chance, ils ont du mal à partager et pourtant ils sont voisins. Au début ça se passait bien, chacun circulait librement et petit à petit le riche, entre parenthèses, en fric, a chassé le pauvre même s'il était chez lui. Personne n'a interpellé les Juifs quand ils se sont accaparés les terres, puis les maisons, puis l'autorité. Le droit international s'est tu. Trop content d'avoir trouvé un lieu pour les Juifs du monde entier qui sont arrivés de plus en plus nombreux, de plus en plus forts de leurs droits et de leur lieu saint, même si la mosquée voisine était aussi sainte pour les Palestiniens. Alors la chasse a commencé et le monde a abandonné les Arabes de Palestine. Les Juifs les ont chassés, ont créé des murs. Et c'est l'horreur, la violence grandit, et c'est tout le contraire de l'humanité. Le monde éclate, la guerre surgit, et avec la guerre, les peurs, les mensonges, les non-droits. C'est devenu une chasse en Palestine. Depuis des années que les Juifs poussent les Palestiniens dans leur dernier retranchement. Et maintenant, ils veulent les assassiner tous ensemble. Comment est-ce possible ? Alors je pense à ce pays et aux Palestiniens surtout, qui depuis si longtemps maintenant se font massacrer et voler leurs terres. Et je ne comprends pas qu'on ait rien dit, parce qu'ils n'avaient pas ces droits-là. Je ne comprends pas qu'on se soit tu si longtemps. Enfin, je pense à eux infiniment, ça ne sert à rien, je sais, mais c'est tellement terrible de voir un peuple qui reçoit des gens et puis qui se fait repousser, voler... tué. C'est horrible comme histoire. Ça commence mal, mais j'espère qu'il va y avoir une solution. Peut-être pas internationale, mais en tout cas, les Palestiniens ont jamais été vraiment violents. Ils se sont toujours défendus. Je comprends pas qu'il y ait une telle... Que tous les pays, même soit du côté d'Israël, alors que franchement, c'est horrible cette situation. Voilà, soyez accueillants. Voyez comment vous êtes reçus et remerciés. J'allais dire amen. Musica.
Can you blame the sky when a mama leaves the babies behind? Leaves the babies behind. Oh, mm-hmm.
Allez, la Diane, can you blame the sky?
Alors, on va faire un petit séjour, un petit passage dans le canard. Les jours de Netanyahou sont comptés. On va voir. La presse israélienne, de gauche comme de droite, se déchaîne contre le gouvernement et lui demande des comptes. La responsabilité de Benjamin Netanyahou dans ce désastre est jugée immense. Il n'y a guère que le canard qui dit ça. Hein. Et le journal Haaretz l'accuse d'avoir sacrifié la sécurité nationale, préférant séduire les partis d'extrême droite. Lui qui avait fait de la sécurité des Israéliens sa priorité a cru que le Hamas se satisferait d'un armistice officieux en échange d'une reprise de l'aide économique. Eh bien, ce n'est pas sa seule erreur, hein, parce que Netanyahou a utilisé, on va dire, le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Et il a concentré l'armée en Cisjordanie, occupée pour protéger les colons, la détournant de sa mission première qui était de défendre l'ensemble du territoire. Mais Netanyahou, dans l'attente d'une probable commission d'enquête, est provisoirement sauvé du naufrage car il lui reste à gérer la question des otages. Des otages, mon Dieu, les pauvres. Les analyses de la direction du renseignement militaire français estiment que le Hamas préparait son offensive depuis mai dernier. S'il a réussi l'exploit de s'équiper militairement au nez et à la barbe de Tel Aviv, la faute en revient à Netanyahou, qui a concentré ses efforts sur la Cisjordanie au détriment de Gaza. Et oui, jamais on pense aux Palestiniens. Et aussi au fait que les services israéliens, Mossad et Sinbet, ont négligé le renseignement humain au profit des moyens électroniques et techniques. Ouais, ça ne doit pas être les premiers, hein, et ce ne sera pas les derniers. Toujours selon la DRM, le Hamas, qui prétend que la terre de Palestine est une terre islamique, ça n'a jamais été considéré comme ça, n'a pourtant jamais caché vouloir éradiquer Israël. Oui, mais ça, c'est le Hamas. Son pouvoir de nuisance sous-estimé, cette organisation terroriste a bénéficié de l'appui de l'Iran, associé au Hezbollah libanais, et du soutien financier du Qatar. Tout se voit d'un mauvais œil, le timide rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, les Émirats et autres pays arabes. Et voilà, mais la Palestine et les Palestiniens sont en rien dans cette histoire, c'est ça qui est horrible. Le Hamas se rend-il compte que son aventure ouvre à la communauté internationale l'opportunité de donner carte blanche à Israël pour répliquer à Gaza et peut-être d'en finir avec lui? Ouh, dans cette sinistre guerre, chacun joue sa partition. L'Iran espère développer son influence dans la région. Le Hamas, qui sait que la riposte d'Israël sera massive, veut s'imposer comme un acteur. L'importation du conflit israélo-arabe dans les banlieues de certaines villes de France, redoutées par la DRM, ferait même les affaires de la Russie. Vous voyez jusqu'où ça va. Netanyahou, lui, espère qu'une victoire éclatante atténuera les reproches dont on l'accable. Il s'accroche à son siège. Encore une minute, monsieur le bourreau. Oh, une minute, c'est déjà trop. Musique, toute cette histoire me bouleverse.
Yo-yo eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got jump football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, and you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now. He got Walrus Gumboot, he got almost cyborg, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his arms, sure you can feel his disease. Come together right now over me.
Together par le duo Musica Nuda sur les ondes de Radio Escapade et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Bon, pour j'allais dire élever un peu le débat. Non, je ne veux pas faire de débat. Mais on va parler d'autre chose. Du changement climatique. C'est pas plus, moins inquiétant, mais c'est quand même intéressant. Voilà, c'est difficile à étudier. Il y a mille évolutions qui se passent. Les cumulus et autres nimbus sont de véritables ovnis scientifiques. On ne les a pas assez étudiés. Et maintenant, des experts du monde entier tentent d'anticiper leur influence future sur la hausse des températures, alors que ça a bien commencé déjà. Et qu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout fait de recherche, enfin très peu fait de recherche dans ce sens. Il y avait un article intéressant dans Libé. Alors, on rêve les nuages, le ciel. On les poétise, on les dévisage, on les redoute, les cartographie, on fait tout ça, mais ils sont toujours des objets de contemplation plus que de récits. C'est plus dans notre fantasmagorie. Enfin bref, les nuages magnétisent quand même. Et dans le champ scientifique aussi, ces amas cotonneux captivent. Mais l'intérêt qu'on leur porte cache une réalité moins légère. Parce que sur une Terre en surchauffe et déréglée, la couverture nuageuse présente de grands risques de métamorphose. Le problème est d'importance car les nuages sont un mystère suspendu dans la communauté des savants. Alors anticiper leur comportement futur, leur physionomie prochaine, leurs effets déterminants sur le climat relève de la mission laborieuse mais essentielle des savants de ce domaine. Le rôle des nuages était un gros sujet dans les années 80-90 et puis d'autres thématiques importantes pour l'étude des changements climatiques sont apparues et les efforts de recherche se sont éparpillés. Voilà, aujourd'hui les nuages se rappellent à nous parce qu'ils sont l'une des principales incertitudes pour les prévisions climatiques. On ne peut pas les ignorer. Sans aucun doute, la grande énigme porte sur le rôle des changements nuageux dans l'amplitude du réchauffement climatique. Et cette interrogation est devenue une obsession. Les chercheurs lui donnent un nom, c'est la rétroaction radioactive des nuages. Vous avez compris le mot rétroaction radioactive, moi ça ne me parle pas. Non, c'est pas radioactif d'ailleurs, c'est radiatif, pardon. Alors je comprends encore moins. Bon, ça fait rien. Alors il y a, pour parler des nuages toujours, en moyenne, ils ont un effet refroidissant sur le climat planétaire. Ça, on avait compris. Ils renvoient plus d'énergie solaire vers l'espace qui ne conserve la chaleur sur Terre. Les nuages bas, épais, opaques, sont comme des parasols qui réfléchissent une partie du rayonnement solaire et tentent à rafraîchir le climat. Ça, c'est un physicien qui nous le rappelle. Les nuages hauts et froids, qui culminent à 15 km dans les airs, à moins 40 degrés, ça alors, ont au contraire un effet de serre notable car ils ont cette capacité d'empêcher une partie du rayonnement infrarouge de s'échapper de l'atmosphère, que ça reste supportable. Ainsi, le rôle refroidissant de la couverture nuageuse l'emporte globalement sur l'effet de serre. Tout l'enjeu est de déterminer à quel point le changement climatique pourrait modifier l'équilibre de ces deux influences. Des premiers éléments laissent penser que la hausse du thermomètre mondial diminuera l'effet refroidissant de ces nuages. Mais ces nuages portent une ribambelle de caractéristiques évolutives. Ils sont ou plus larges, ou plus hauts, ou plus denses. Ils se déplacent autrement, ils grossissent, ils interagissent les uns avec les autres. Enfin, tout ça, on l'a pas du tout étudié. L'augmentation des températures planétaires en change, les propriétés risquent d'être bouleversées. Et tous les types de nuages ne répondront pas à l'identique au réchauffement. C'est toute la complexité de l'affaire. C'est pas simple. Est-ce que l'effet dominant et refroidissant des nuages va se fortifier ou s'atténuer? C'est ça la grande question. Et l'objectif principal, ça va être de disséquer les cumulus d'Alizé. Ce sont les nuages bas et moutonneux les plus fréquemment observés à la surface de la Terre. Il y en a tellement qu'un petit changement de leurs propriétés peut avoir un fort impact. Mais la grosse crainte, c'est de voir ces nuages diminuer avec la hausse des températures, ce qui diminuerait aussi l'effet de parasol et amplifierait les réchauffements climatiques. C'est très très compliqué et finalement on s'aperçoit qu'on est sous un puzzle géant parce que désormais les cumulonimbus et les stratocumulus, qui sont ceux qui sont en bas, sont au centre de l'attention. Et si le rôle des nuages dans la machine climatique est aussi incertain, c'est parce que leur comportement dépend d'un nombre de facteurs considérables qu'on n'a pas étudiés encore. Alors la science des nuages, c'est un peu comme un puzzle géant. On dit décomposer le problème en 1000 morceaux, on doit le faire, pour voir comment les uns s'articulent avec les autres. Mais il y a un autre facteur qui est scruté par la communauté scientifique, c'est la pollution qui transforme aussi tout ça. et qui est due aux activités humaines, évidemment, aux suies, aux fumées d'industrie, aux gaz d'échappement, enfin tout ça. Et tout ça crée des nuages brillants et réfléchissants. Puis quand on dit réfléchissant, ça veut dire refroidissement sur le climat. Plus l'humanité limitera sa pollution, plus le ciel nuageux au-dessus de sa tête perdra son pouvoir rafraîchissant. C'est un effet indésirable et assez fâcheux. Alors déjà en mer, les scientifiques se sont rendus compte des prémices du phénomène. Il y a l'Organisation maritime internationale qui a imposé aux bateaux en 2020 de limiter leur teneur en soufre, enfin la teneur en soufre du fioul, parce que ça, les paquebots fonctionnaient avec du fioul de très mauvaise qualité qui contenait beaucoup de dioxyde de soufre et qui, une fois libéré sous forme de particules, influençait fortement les propriétés rafraîchissantes des nuages. On avait déjà étudié ça, mais ça n'a pas suffi. Je ne sais pas si ça a été suivi d'effet, en tout cas. Et puis, les chercheurs s'affairent aussi à mieux saisir le lien entre vapeur d'eau et événements climatiques extrêmes, à commencer par les fortes pluies. Ah, il paraît qu'il faut qu'on se prépare pour demain. Le principe de base est celui-ci. En réchauffant l'atmosphère, eh bien, elle s'humidifie. Ça, c'est assez mystérieux. Partant de cette règle d'or confirmée par les modèles et les observations, les scientifiques estiment que ce phénomène conduira à une intensification des précipitations. Voilà, les fortes pluies vont devenir de plus en plus extrêmes dans la plupart des régions et cette intensification sera amenée à se poursuivre tant que la température du globe ne sera pas stabilisée. Bon, c'est un climatologue de Météo France qui raconte ça, mais je le crois. Les récentes inondations en Grèce et en Libye ne sont qu'un aperçu de la situation à venir. Les précipitations extrêmes vont gonfler de l'ordre de 7% pour chaque degré de réchauffement atmosphérique. Si par malheur nous nous dirigeons vers une hausse globale des températures de plus 3 degrés, eh bien les pluies intenses pourraient donc croître d'environ 20%. Et ça pourrait faire des catastrophes, évidemment. Donc tout ça est à considérer, c'est très très compliqué. On va espérer que les scientifiques pourront trouver quelques solutions, mais c'est pas gagné non plus. Hein. Voilà, ce sera à suivre. Je pense qu'on en parlera plus régulièrement désormais. Moseka.
Try to change the situation. How come you always escape out of a serious conversation? Don't you know it can never be too late for us to succeed out of every misery? You can be relieved as long as you believe. Different from how it is right now. You know that you could change so many things if only you would now. You should know it can never be too late. Just get up and try. And if you fall and wonder why, just try another time. Coming, as long as you believe, help is coming.
You're always looking for a scapegoat, like everything is them fault, and never ever you gon' say maybe I did mistakes. You acting up like a wise guy, never you gon' say why. Like you know everything and what they say just can't be right. How come you never change? How come you always fade in everything you did before back then until today? Help is coming, as long as you believe. Help is coming for us to be relieved. For us to be relieved. Help is coming, as long as you believe. Help is coming.
Ayo, avec le titre Help is Coming, vous écoutez Dididi en compagnie d'Isabelle.
Bon, je suis désolée, je ne suis pas particulièrement joyeuse aujourd'hui. J'ai lu cette semaine un bouquin qui s'appelle Nous colonisons l'avenir. C'est écrit par un néerlandais, enfin un belge je crois, hein, qui s'appelle David Van Reybrouck et qui dit plein de choses intéressantes et qui nous renseigne surtout pour ce qu'on ignore et qu'on ne lit pas très souvent. Le grand rapport du GIEC, par exemple, qui a été publié en août 21, a été fondé sur plus de 14 000 publications scientifiques et qui laissait aucune place au doute. La Terre se réchauffe. Elle se réchauffe même rapidement et ça provient uniquement de l'activité humaine. Alors les glaciers, les calottes polaires sont plus petits qu'ils n'ont jamais été au cours des derniers millénaires. Le niveau de la mer ne s'est jamais élevé aussi rapidement en 3000 ans. Et la concentration de CO2 est la plus forte depuis 2 millions d'années. Alors, c'est pas très rassurant tout ça. Et on n'en parle pas. Il n'y a qu'à voir comme les gens dans les Alpes sont en train de vouloir refaire des pistes encore plus hautes. N'importe quoi. Aucune conscience politique. Alors, à politique inchangée, d'ici la fin du siècle, la planète sera réchauffée de 4 à 5 degrés si on ne fait rien. Hein. Et si on dépasse ce pic, eh ben, on risque d'atteindre le point de bascule qui déclenchera des processus irréversibles. Le permafrost en Sibérie, par exemple, pourrait dégeler. Et ça libérerait d'énormes quantités de méthane et un puissant gaz à effet de serre, ce qui provoquerait une accélération du réchauffement climatique. Et en libérant encore plus de métal, ça rendrait des parties de la planète complètement inhabitables. Et puis un autre point de bascule pourrait être franchi du fait de la fonte continue des glaces du pôle Nord. À la surface blanche de la banquise, qui réfléchit la lumière du soleil donc, et renvoie tout ça, si ça se transforme en mer sombre, eh ben ça absorbera la lumière et ça reflétera de moins en moins la chaleur. Alors l'Arctique est d'ores et déjà l'endroit qui se réchauffe le plus rapidement sur la Terre. En conséquence, le Gulf Stream, lui, qui régule notre système météorologique, pourrait perdre de sa vigueur ou même cesser de circuler, ce qui serait dramatique, ce qui pourrait à son tour entraîner une fonte beaucoup plus rapide que prévu de la glace terrestre au Groenland, dans l'Himalaya, au pôle sud, avec pour conséquence une forte élévation du niveau de la mer. Forte élévation, ça veut dire 1m20, 1m50, c'est déjà énorme. Voilà, c'est quand même assez étonnant, mais je veux continuer à vous parler de ce bouquin parce que j'ai appris plein de choses que j'ignorais totalement. Parce qu'on vit tous sur cette petite terre vulnérable et on n'a aucun forum pour délibérer. Aujourd'hui, le monde ressemble à un pays qui se composerait que de petits conseils municipaux. Et tout le monde se croit très important au lieu de se mettre ensemble et d'essayer de discuter. Enfin, même si je me trompe un peu, hein, mais je ne me trompe pas beaucoup. Parce que soi-disant, on dispose d'un tel forum. La chose est encore très modeste. En 21, il y a eu la première assemblée planétaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait Global Assembly. C'était une initiative qui partait de... Qui a été provoqué, je crois, par le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, et du président de la COP26, qui s'appelait Sharma, un nom comme ça. avec l'aide de la NASA et plein de renseignements sur des lieux partout dans le monde. Et ce serait bien que ça se retrouve et que ça se réorganise pour pouvoir discuter, prévenir, participer, recommander, même provisoirement, de faire certaines choses. Parce que si on suppose que cette globale assemblée annuelle se retrouve une fois par an, peut-être qu'on serait moins déconcerté qu'on ne l'est actuellement. Et puis le monde parlerait pour la première fois en tant que monde, au lieu que ce soit chacun pour soi, toujours. Musica, on continuera quand même.
My heart at the door, I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know up tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a is if this is my life.
Adèle, avec le titre Olayasque sur les ondes de Radio Escapade.
Bien, je vais continuer de vous lire des passages du bouquin qui s'appelle « Nous colonisons l'avenir » de David Van Reybrouck, parce que c'est intéressant. Il a fait 4 propositions pour sauver la planète. Les 3 premières, je vous les passe, parce que je trouve que la 4e est la plus intéressante et certainement celle qui pourrait nous sauver. Alors, ma 4e et dernière proposition est la plus radicale et j'espère qu'elle se révélera inutile. Il pense qu'on va faire avant. C'est à contre-cœur que je la préconise, mais en abordant le rôle actif du citoyen, nous ne pouvons éviter de l'évoquer. Elle a pour nom désobéissance civile. Tout citoyen est censé connaître les lois et de son pays et s'y conformer, mais il existe un certain seuil à partir duquel les lois ne sont tout simplement plus défendables parce qu'elles violent l'équité, la dignité et la vie elle-même. Alors, les gouvernements néerlandais, belges, allemands, français et irlandais ont été condamnés en termes très clairs par leurs tribunaux nationaux respectifs pour insuffisance flagrante de leur action politique. Aux Pays-Bas, le juge est allé jusqu'à imposer des objectifs de réduction concrets et quantifiés. En France, le gouvernement s'est même vu signifier qu'il devait réparer le préjudice écologique dû à son inaction. Autrement dit, nos gouvernements se rendent coupables de violations des droits de l'homme. Et ils n'ont pas l'air de s'en apercevoir. En 1846, lorsqu'Henri David Thoreau, qui fut sommé de payer ses impôts à l'État du Massachusetts tandis qu'il méditait dans sa cabane forestière dans les bois, donc il s'y refusait déjà depuis 6 ans en raison de l'esclavage qui sévissait toujours en Amérique et de la poursuite de la guerre contre le Mexique. Il a payé ce refus d'une nuit en prison. C'était pas cher payé, ça va. Ce qui l'a amené à écrire un bouquin qui s'appelle Civil, désobéissance. Facile à traduire, la désobéissance civile. Sans doute l'un des pamphlets politiques les plus influents de ces dernières années. Avec Gandhi, ce pamphlet a conduit à l'indépendance de l'Inde. Avec Martin Luther King, il a inspiré le mouvement américain des droits civiques. Et avec Rachel Carson, il a influencé le mouvement environnemental international. Alors Rosa Parks, vous savez, qui a refusé de se lever dans le bus, le savait déjà. Parfois, il faut s'asseoir dans le bus à un endroit où la loi vous interdit de le faire. Mais on le fait quand même, parce que la loi est mauvaise. Il existe des lois injustes, écrivait Thoreau dans sa cabane du fond de la forêt silencieuse. Et il faut transgresser tout ça. Alors, si nos États continuent à investir dans le secteur fossile, s'ils continuent à protéger l'aviation et le transport maritime tel que ces secteurs fonctionnent aujourd'hui, ils ne sont même pas tenus de respecter l'accord de Paris sur le climat, ce qui est quand même dingue. Si une agro-industrie impitoyable, qui ne mérite plus depuis belle lurette le nom d'agriculture, parce que ça ressemble plus du tout à de l'agriculture, continue à bénéficier de subventions colossales, si les fonds de pension des fonctionnaires continuent à investir dans les énergies fossiles, si l'offre de voitures privées ou de sociétés de leasing continue à être encouragée comme un complément de salaire avantageux pour les employeurs, si les multinationales polluantes continuent à avoir le champ libre tant que les citoyens n'engagent pas eux-mêmes de poursuites, si le kérosène reste non taxé pour les avions et l'écocide impuni, si nous continuons à confondre le bien-être avec le pouvoir d'achat et le bonheur avec la croissance, si en un mot, nos gouvernements continuent à coloniser l'avenir avec l'argent de nos impôts et à agresser le Sud, à détruire la nature comme ils le font actuellement en coupant tous les arbres dans le sud-ouest de la France et exterminer les espèces, n'atteindrons-nous pas un point où nous devrons nous demander, pouvons-nous encore, en toute conscience, soutenir cette horreur? Voulons-nous vraiment subventionner une destruction qui nous affecte, qui affecte le monde entier et qui met en péril l'avenir? Ah, j'imagine que les objecteurs de conscience vont fleurir. Par exemple, dans le domaine fiscal, 18% des fonds publics de leur pays va aux énergies fossiles. Si on déduisait 18% de leurs impôts, ce serait parfait. Ils continueraient à payer le reste, c'est-à-dire la protection sociale, l'état de droit, l'éducation et tout ça qui est cher, mais ça suffit. On n'est pas obligé d'aller payer des choses insensées. Donc c'est assez compliqué. Sur leur site web, des milliers, voire des dizaines de milliers de sympathisants pourraient s'associer à leur initiative et déclarer sous couvert d'anonymat leur contribution fiscale de l'année précédente. En soustrayant 18% de ce total, on aurait une idée de ce que ça représente. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'État use et utilise. Au début, l'engagement des sympathisants serait purement symbolique, mais avec le temps, les participants pourraient basculer vers la désobéissance fiscale. Mais il faudrait qu'on soit nombreux. Les sommes non versées par les contribuables au gouvernement seraient alors déposées sur un fonds de garantie destiné à couvrir les éventuels frais de justice. Parce qu'il y en aura forcément. Pensez bien que l'État condamnera les gens qui leur désobéissent. Bon, j'ose espérer qu'on n'en viendra pas là, dit l'auteur. J'ose espérer que dans les années à venir, nous verrons les preuves d'une gestion énergique et d'une politique courageuse. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile. C'est pas plus simple qu'un arrière-plan idyllique ou romantique qui disparaîtrait lorsqu'un paysage est défiguré. C'est terrible, on y perd une part du sens de notre vie à se conduire comme ça. Voilà. Donc, moi, je vous engage à lire ce bouquin. Ça s'appelle « Nous colonisons l'avenir » de David Van Reybrouck. Et c'est pas très cher, d'ailleurs. Je ne sais plus. 8 euros, je crois. C'est notre avenir qui est en jeu. Et il est temps qu'on se réveille. Moseka.
The blank pages of my diary that I haven't touched since you left me. The closed blinds in my home see no light of day. Dust gathers on my stereo 'cause I can't bear to hear the radio. The piano sits in a shady space with a picture of your face.
Duffy, I'm Scared sur les ondes de Radio Escapade et vous écoutez Isabelle à l'émission Didi.
Bon les amis, le temps passe vite et j'ai été un peu sombre aujourd'hui. Je voudrais finir sur une note, je ne veux pas être si heureuse aussi, mais surtout pleine d'espoir, c'est que l'art contemporain français n'est plus cantonné au conceptuel et qu'il y a des jeunes peintres qui font un tabac et la valeur de leur toile ne cesse de monter. C'est assez extraordinaire qu'il y ait un mouvement de peinture comme ça qui se rassemble et qui donne un peu d'espoir. C'est donc le retour de la peinture et ça fait actuellement un tabac partout. Et il y a une trentaine de ces jeunes peintres qui s'exposent au MoCo à Montpellier. Alors si vous avez l'occasion d'aller là-bas, eh bien profitez-en parce que c'est assez rafraîchissant et ça donne, ça fait du bien quoi. L'art fait du bien, on le sait. C'est toujours comme ça. L'art fait beaucoup beaucoup de bien. Alors allez-y dans tous les sens, musique, peinture. Tout ce qui vous fait du bien est nécessaire aujourd'hui. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce que c'était un peu difficile. Salut les amis. Et à la semaine prochaine, même jour, même heure, même plaisir pour ma part. Et en tout cas, merci mille fois Fabien de m'accompagner, surtout quand c'est difficile comme ça. Ciao et adios.
Adios, adios, adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. That vision is mine. Adios.
Yes, sir.
Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. After all, why should I have any regret? If it wasn't for my decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine.
A lot of people have been coming up to me lately talking about how, you know, Benjamin, why is it so that, you know, you're young but yet your world seems to be very dark and you seem to be almost possessed? I think that's quite funny because when I'm on my journey, you know, and I'm, you know, figuring things out, I do come across, surprisingly, angels. They come to me and they sing to me so beautifully. And if I can recall very clearly, their melodies, it goes something like this. Ooh.
Lest the trees cease breathing, lest the bees cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing. The decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine, the decision.